Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de mise à jour sur la protection des données et le respect de la vie privée. Je m'appelle Yves Guignot et je vais donc aujourd'hui modérer ce webinaire également sur Adobe Connect, sur le chat de Adobe Connect. J'aimerais vous signaler qu'il faut suivre les normes de conduite requises de l'ICANN. Elles seront postées dans le chat. Le webinaire d'aujourd'hui durera 60 minutes, y compris une séance de questions-réponses. Et pour faciliter la participation mondiale, nous allons fournir les services d'interprétation en arabe, en chinois, en français, en portugais, en russe et en espagnol. Ce webinaire est enregistré en anglais et dans les langues auparavant mentionnées. Des liens vers les enregistrements et les présentations seront postés sur le site web de l'ICANN, consacré à la protection des données. Nous répondrons à vos questions à la fin du webinaire. Veuillez soumettre vos questions par l'intermédiaire de l'espace réservé à cet effet dans Adobe Connect. Indiquez votre nom, votre affiliation, votre entreprise ou organisation dans l'espace « Submit questions here ». On ne prendra uniquement les questions par l'intermédiaire de Adobe Connect. J'aimerais prendre un instant pour vous souhaiter à tous la bienvenue à ce webinaire. Nos présentateurs de l'ICANN seront Teresa Swinehart en premier, vice-présidente des stratégies multipartites et initiatives stratégiques, Goran Marby, président et PDG, John Jeffrey, directeur juridique, David Olive, vice-président senior du soutien au développement de politique, et Akram Atala, président de la division des domaines mondiaux de l'ICANN. J'aimerais vous rappeler également qu'il faut mettre sur mode silencieux vos téléphones et ordinateurs. Je passe maintenant la parole à Teresa. Eh bien, merci beaucoup Yvette, merci à toutes et à tous de vous joindre à nous. Vous êtes nombreux à participer. Comme Yvette l'a mentionné, nous avons plusieurs intervenants qui vont commencer ce webinaire pour couvrir beaucoup et nous allons inclure donc une mise au point générale en premier sur toutes nos activités. Ensuite, nous allons parler plus précisément du processus accéléré de développement de politique, le PDP. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent cela de très près. Donc ce sera une très bonne mise à jour. Nous allons également parler du protocole aux données d'enregistrement, l'accès aux données d'enregistrement, ou le RDAP, et vous aurez la possibilité de poser des questions par la suite. Vous utiliserez donc le chat à cet effet. Donc nous serons brefs, nous serons généraux, parce que nous voulons répondre principalement à vos questions aujourd'hui. Nous allons passer maintenant au transparent suivant. C'est parfait, vous voyez donc ce calendrier. Et avant de passer la parole au premier intervenant, je voulais partager avec vous ce calendrier que vous avez à l'écran qui vous donne une idée de tous les éléments qui sont en lien par rapport à la préparation du RGPD. Comme vous pouvez le noter, le Conseil d'administration a réaffirmé la spécification temporaire le 21 août pour une période de 90 jours. Le Conseil d'administration va réaffirmer à nouveau en novembre, nous le pensons, ces spécifications temporaires. Et cela peut être comparé aux objectifs de l'équipe EPDP, ainsi que la période de commentaires publics qui vient de s'ouvrir sur le RDAP. Donc vous voyez que tout est en lien, tout est interconnecté et nous espérons que ce webinaire va donc vous permettre de connecter un petit peu tous ces points dans toutes ces parties en mouvement. Comme vous pouvez le voir sur le calendrier, il y a plusieurs aspects également qui nous amènent à la prochaine réunion de Barcelone, ICANN 63, dans deux semaines à peu près. Et il y aura d'autres séances et des séances à Barcelone qui parleront de ces points pour les parties prenantes. Ceci dit, je vais maintenant passer la parole à Johan, qui va vous donner plus de détails sur le process. Vous avez la parole, Johan. Oui, merci beaucoup, Teresa. Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est bonjour que je vous dis, mais j'aimerais repartir un petit peu en arrière, vous dire qu'il y a seulement un an que nous avons commencé vraiment à lancer ce processus sur le RGPD. Certains d'entre vous se rappellent peut-être qu'il y avait ce système un petit peu de loterie qui existait. C'était très complexe, les interactions entre les différentes communautés. Nous avons maintenant une proposition de conformité entre les parties contractantes. Et j'ai toujours eu un esprit d'ouverture, c'est quelque chose d'important pour la communauté. Donc, on n'a pas réinventé la roue, mais on l'a rendu possible, ce processus. Nous avions ce EPDP qui est tout à fait excellent. Donc, au départ, nous avons donc créé moins d'incertitudes au niveau juridique pour la collecte des données. Et également, nous a donné des conseils très utiles pour ces différents modèles. Donc, nous allons vous donner plus d'informations sur ces modèles d'ici peu. Et ensuite, nous avons pensé que c'était peut-être la partie la plus facile du processus, parce que ensuite, c'était l'accès aux données dans le cadre de WIS ou autre. Donc, nous avons des perspective juridique. Est-ce qu'on peut avoir un modèle d'accès unifié? Telle est la question. L'accès aux données. Donc c'est de plus en plus complexe parce qu'il y a un rôle qui est joué par les contrôleurs des données. John va nous parler un petit peu, notre directeur juridique, de ces différentes possibilités, de ces différents modèles. Moi, j'ai déjà reçu des questions. Pourquoi faisons-nous cela? Eh bien, avec notre conseil d'administration, avec tous nos membres, avec des personnes en dehors de la communauté de l'ICANN, nous comprenons bien l'importance du travail de l'ICANN. Et nous devons voir s'il est possible juridiquement d'avoir un modèle d'accès unifié. C'est pour cela qu'on a besoin de votre participation au maximum. Il y a beaucoup de communications qui existent, qui proviennent notamment du Comité de protection des données d'Europe. Mais c'est à la communauté de décider si vous soutenez un modèle d'accès unifié en tant que politique de consensus. Et David Olive va nous en dire plus au sujet du processus accéléré de développement de politique. Notre travail et notre engagement avec les autorités européennes a pour but d'essayer de déterminer si un tel modèle peut être mis en œuvre et en conformité avec les lois qui s'appliquent. Nous avons obtenu des conseils des autorités de contrôle. Nous essayons d'expliquer ce que nous essayons d'atteindre. Avec une meilleure compréhension de la loi, nous serons mieux positionnés pour concevoir, mettre en œuvre et faire respecter un modèle unifié cohérent. Toute clarité juridique que nous recevons des autorités de protection peut également diminuer le risque des parties contractantes. J'aimerais maintenant donner la parole à notre directeur juridique, John Jeffrey. Oui, comme Johan l'a noté, nous avons pris en compte différentes approches juridiques et techniques pour déterminer les risques associés, tout particulièrement pour les parties contractantes. Nous avons des parties techniques éventuelles pour voir quel modèle répondrait donc à la loi. Donc je vais vous en parler brièvement aujourd'hui. Tout d'abord, nous aurions une solution technique avec un modèle éventuel d'authentification qui serait basé sur la technologie disponible par l'intermédiaire du protocole d'accès aux données d'enregistrement qu'on appelle le RDAP. Et dans cette approche, les parties tierces recherchant des données non publiques soumettent leur demande à la CAN, qui détermine alors si la requête est approuvée et poursuivie. Si elle est approuvée, cette requête, il sera demandé au registre ou au bureau d'enregistrement approprié de fournir les données requises à la CAN, qui à son tour les fournirait à la partie tierce. Si la CAN n'approuve pas la demande, elle sera donc refusée. L'ICANN a également exploré une autre approche visant à juridiquement reconnaître l'ICANN comme étant l'autorité de coordination du système WHOIS, avec l'objectif de réduire la responsabilité juridique des registres et bureaux d'enregistrement en ce qui concerne la conformité au RGPD dans le cadre des services WHOIS. Cette approche utilise les clauses de l'article 40 du RGPD afin que l'ICANN travaille avec les organismes pertinents en vue de développer un code de conduite WHOIS qui sera destiné au secteur des GTLD. Nous explorerons ces voies pour déterminer si elles aideront l'organisation ICANN à être reconnue dans le cadre des lois en tant qu'autorité de coordination du système WHOIS, ce qui existe d'une manière historique depuis de nombreuses années. Cela limiterait ainsi la responsabilité des parties contractantes. De plus, nous effectuons également des recherches en vue de déterminer si d'autres documents adoptés dans l'Union européenne et reconnaissant que l'importance de l'intérêt public du WHOIS répond aux critères du RGPD pour ce qui est de l'intérêt public. Si vous avez connaissance de tout document en rapport avec ce point, nous aimerions que vous nous contactiez. Ce serait très intéressant pour nous. Nous avons soulevé certaines de ces idées lors de discussions, y compris à Bruxelles. Nous continuons à présenter vos idées et préoccupations lors des futurs dialogues avec le Comité européen de protection des données. J'aimerais donc poursuivre en vous fournissant aujourd'hui une mise à jour sur les actions en justice. Comme vous le savez, à la mi-septembre, nous avions fourni à la communauté une mise au point indiquant qu'une haute cour de justice allemande avait statué contre un argument de l'ICANN visant à revenir sur une décision de la cour. L'ICANN poursuivait une mise en demeure préliminaire de la cour allemande requérant EPAG, un bureau d'enregistrement homologué par l'ICANN, faisant partie du groupe TwoCause, de continuer à collecter des éléments de données WHOIS tels que requis dans le cadre du contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement qui autorise le bureau à vendre des enregistrements de noms pour des domaines génériques de premier niveau. L'argument de l'ICANN avait été déposé pour poursuivre l'appel immédiat dans les procédures d'injonction ICANN versus EPAG. L'ICANN avait lancé de telles poursuites contre EPAG pour obtenir une assistance dans l'interprétation du RGPD afin de protéger les données collectées dans les WHOIS. La Cour d'appel a une nouvelle fois déterminé qu'elle ne publierait pas de mise en demeure contre EPAG. En prenant cette décision, la Cour d'appel a statué que la procédure d'injonction préliminaire ne fournit pas le cadre de référence approprié afin de déterminer la nature des litiges contractuels. Nous continuerons à envisager les étapes suivantes en rapport avec cette décision, puisque la Cour d'appel n'a pas abordé les mérites des questions sous-jacentes concernant l'application du RGPD en rapport avec le WHOIS. Je vais maintenant donner la parole à David Olive. David, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Jeanne. Le processus de développement de politique accélérée sur la spécification temporaire pour enregistrement des données GTLD, qu'on appelle également le PDP, a été lancé par le Conseil de la GNSO le 19 juillet. Et donc l'équipe EPDP a organisé sa première réunion le 1er août. Des représentants ont été nommés des groupes de parties prenantes de la GNSO. Il y a également des représentants nommés du comité at large, du comité consultatif gouvernemental et du FSAC. Il y a également deux liaisons du conseil d'administration ainsi que deux liaisons d'ICANN.org, un qui représente la division des domaines mondiaux de l'ICANN et un autre qui représente le contentieux de l'ICANN. Par ailleurs, toute personne intéressée peut observer les délibérations de l'équipe EPDP en écoutant la diffusion audio qui est fournie pour chaque réunion ainsi que pour accéder par la consultation donc dans une salle Adobe Connect. En ce qui concerne les efforts de l'équipe EPDP, elle a donc pour objectif de confirmer ou non la spécification temporaire d'ici le 25 mai 2019, date à laquelle la spécification temporaire arrivera à expiration. Par ailleurs, il y a également une discussion du modèle d'accès standardisé aux données d'enregistrement non public. Cependant, la discussion au modèle d'accès standardisé ne se produira qu'une fois que l'équipe EPDP aura répondu à toute une série de questions de contrôle, de gating questions, qui ont été spécifiées dans la charte de l'équipe EPDP. Depuis le lancement, l'équipe s'est retrouvée 15 fois, 2 réunions par semaine, de 2 heures chacune, et elle a récemment eu une réunion en personne à Los Angeles. Lors de cette réunion, beaucoup de progrès ont été effectués et l'équipe EPDP s'est mise d'accord de manière temporaire pour prendre en considération un certain nombre de principes juridiques pour le traitement des données d'enregistrement de noms de domaine pour l'étape suivante du travail qui a également commencé pendant la réunion en personne. Et donc l'idée, c'est de déterminer les éléments de données requis pour ces objectifs, de déterminer la logique juridique ainsi que le traitement des parties impliquées. L'objectif de l'équipe EPDP, c'est donc de partager ces recommandations en ligne dans un rapport initial avec la communauté lors d'une séance de sujets à haut intérêt lors de l'ICANN 63 qui donc aura lieu le 22 octobre, le lundi, de 15h15 à 16h45, heure de Barcelone. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. Nous allons maintenant entendre Akram Atala qui va nous faire part du pilote de protocole d'accès de données d'enregistrement et de la période de commentaires publics. Akram, c'est à vous. Akram au micro. Merci David. Alors comme certains d'entre vous le savez peut-être, le RDAP, c'est-à-dire le protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaines, fournit un accès aux données d'enregistrement de domaines un peu comme le WHOIS. La mise en œuvre de RDAP permettra d'avoir accès aux données d'enregistrement standardisées et donc au format de réponse de requête. Le RDAP a plusieurs avantages par rapport au protocole WHOIS, y compris un soutien pour l'internationalisation, un accès plus sécurisé aux données et la possibilité de fournir un accès différencié ou sur plusieurs couches aux données d'enregistrement. Le RDAP ne changera pas les données qui sont déjà stockées et à laquelle on a accès par le WHOIS. C'est simplement une manière améliorée d'accéder aux données. Nous avons travaillé avec un groupe de discussion des bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre pour créer un profil RDAP. Il y a maintenant une période de commentaires publics qui se terminera le 13 octobre. Je vous encourage à consulter les supports affiché sur la page de commentaires publics de l'ICANN et de fournir votre point de vue sur ce travail important. L'ICANN continue de travailler avec les parties contractantes pour en arriver à un accord sur les conventions de service et sur les obligations de déclaration des opérateurs de registre. Lorsqu'un accord sera atteint, ces propositions seront également soumises à commentaires publics. Suite aux périodes de commentaires publics, nous devrions pouvoir publier un profil définitif avant la fin de l'année, et à ce moment-là, les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre recevront un avis juridique de l'ICANN qui leur demandera de mettre en œuvre le RDAP conformément au profil et conformément au SLA et aux obligations de déclaration. Dans les 135 jours, les services RDAP devraient être obligatoires d'ici avril ou mai 2019. Donc voilà, j'ai terminé et je vais maintenant passer la parole à Teresa pour les questions. Teresa, c'est à vous. Teresa au micro. Merci Akram, merci à tous. Alors j'aimerais vous rappeler que nous allons répondre aux questions par la salle de chat d'Adobe. Vous pouvez taper ces questions, il nous reste encore du temps, n'hésitez pas. Donc c'est dans la partie « Submit questions here » que vous devez les taper. Nous essayerons de répondre à un maximum de questions dans le temps que nous avons. Et je vous rappelle donc que toutes les présentations seront affichées sur notre site web. Si nous n'avons plus de temps ou si vous avez des questions supplémentaires après la fin du webinaire, eh bien vous pouvez les envoyer à gdpr@icann.org. Alors, ceci étant, vous avez la parole si vous avez des questions. Je n'en vois pas dans le chat, dans la partie Submit Questions Here, mais peut-être que les gens sont toujours en train de taper, donc nous allons attendre quelques instants. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui tapent, donc on va attendre un instant de les voir apparaître. Alors, en attendant, Yoran, je vais peut-être vous poser une question sur la probabilité des progrès et où est-ce qu'on en est, en fait. Quelle est votre estimation par rapport à ça, Yoran au micro? Oui, merci, Teresa. Le problème, c'est que la loi est relativement spécifique par rapport au rôle individuel des contrôleurs de données. Donc, il nous va falloir trouver un moyen, dans le cadre de la loi, de changer ceci. Et la seule manière de le changer, c'est en fait de baisser le risque pour les contrôleurs de données. Donc, en termes juridiques, c'est un petit peu un calcul du fournisseur. Sinon, les... les autorités devront interpréter la loi. Et aujourd'hui, de toute évidence, la communauté de l'ICANN a très peu à dire sur qui aura accès aux données et pour quelle raison, dans quel objectif. Parce que la loi définit que la responsabilité juridique revient aux parties contractantes. Donc, il n'est pas facile dans le cadre de la loi, de trouver un moyen pour diminuer en fait la responsabilité juridique des parties contractantes. C'est ça le problème. Et donc je pense que notre relation avec certaines des parties contractantes, ainsi qu'avec les DPA et la communauté européenne, tout ceci est positif, mais la probabilité est basse d'arriver à solution là-dessus. Maintenant, ça dépend de la communauté de l'ICANN. Si la communauté veut exprimer une opinion par rapport à cet accès aux données WHOIS, eh bien, cela dépend d'elle. C'est à elle de le signaler. Et donc, c'est dans le cadre du développement de politique que l'on pourra voir comment traiter de cette question. Merci, Teresa. Merci, Yoran. Nous avons une question, donc on va attendre une petite seconde, le temps que la personne la pose. Yvette, est-ce que la question arrive? Yvette au micro. Alors, il y a une nouvelle question, toute nouvelle, qui vient d'arriver dans le chat. Nouvel intervenant au micro. Oui, on va donc attendre cette question. Je peux vous la lire si vous voulez. Alors, Alfredo a posé la question suivante. Est-ce que donc le mois d'avril et de mai veut dire que le WHOIS ne sera plus disponible aux utilisateurs finaux et que le RDAP sera mis en œuvre? Ça, c'est la première partie de la question. Et ensuite, il y a une deuxième partie. Que se passera-t-il si un FSI, un bureau d'enregistrement ou un opérateur de registre n'est pas conforme à ce moment-là? Nouvel intervenant au micro. Non seulement c'est quelque chose qui est en fait implicite, mais à partir d'avril ou mai de 2019, les utilisateurs de parties tierces qui utilisent donc le WHOIS, maintenant c'est diminué parce que nous avons maintenant des données qui ne sont plus publiques. Donc conformément à la loi, le rôle du contrôleur de données, selon la définition actuelle, c'est les parties contractantes. Donc ce sont eux qui prennent les décisions. Les politiques de l'ICANN, ICANN.org, dans une certaine mesure, ont quelque chose à dire en dehors de cette spécification temporaire. En fait, c'est la faute de personne, hein, je voudrais le redire, c'est la loi. C'est la loi. Donc, si a été pris en considération, je l'agis par les... Question de Tijan. Comment pouvons-nous réduire la responsabilité des parties contractantes? Si je connaissais la réponse, je vous la donnerais. Mais en fait, il y a, ce que nous sommes en train de faire, c'est de voir les différentes options pour répondre à cette question. Et donc, en partie, il faudrait pouvoir trouver une solution selon laquelle ICANN.org soit intermédiaire, en fait. Bien sûr, ceci dépendra des politiques de la communauté. Ensuite, il y aura le code de conduite, différentes options de code de conduite pour décrire ce qui correspond à la loi, mais on ne sait pas exactement comment le mettre en œuvre. Et rien de tout ceci ne passera si les parties contractantes n'ont pas le sentiment que la responsabilité juridiques sont diminués, parce que si ceci ne se produit pas, on ne pourra pas définir les choses correctement. Tant qu'ils ont cette responsabilité, ils ont également l'obligation par rapport aux données. Il y a également la question de la police. Tout ceci est fait sur la base de leurs propres opinions par rapport à la loi, leur travail. Et pour eux aussi, cela représente un risque. Et encore une fois, ICANN.org, finalement, n'a pas d'intérêt dans ces discussions. C'est la communauté qui définit les politiques. Ce que nous essayons, c'est de comprendre la loi. Nouvel intervenant au micro. Question de Colin Kerr. J'ai affiché ma question et je l'ai posée donc aux membres de l'équipe EPDP. Pourquoi est-ce que l'évaluation de l'impact des protections de données n'a pas été effectuée pour clarifier les données ou les flux de données? Et en ce qui concerne les relations de l'ICANN avec les sujets de données, conformément au rôle reconnu de contrôleur conjoint. Nouvel intervenant au micro. Merci pour cette question. C'est quelque chose qui a été pris en compte dès le début et une des questions, c'est de savoir comment faire les choses de manière la plus utile possible. Donc, nous continuons de voir comment l'interprétation du RGPD s'applique au RUIS. Nous avons un certain nombre de questions qui ont été traitées directement et qui ont été posées aux autorités européennes. Et nous travaillons avec la Commission européenne. Nous continuons à travailler cette évaluation. Et à déterminer les délais. Nouvelle question de Steve Metallic. Comment est-ce que le rôle de coordination de l'autorité correspond à la distinction du RGPD entre personnes qui traitent les données et personnes qui contrôlent les données? Nouvel intervenant au micro. Je demande en fait à l'équipe technique de nous montrer les questions, ce n'est pas très clair. Alors Steve, votre question, excellente question, c'est une des questions que nous soulevons auprès des APD, des autorisations de protection des données, justement. Donc par exemple, si vous prenez l'exemple de ce dont on a parlé, si ICANN.org devient l'intermédiaire entre la personne qui pose la question et la personne qui a les informations. Dans ce scénario, nous serons, ICANN.org sera physiquement l'entité juridique qui pose la question. Et les parties contractantes ne pourront poser cette question que par nous. Et donc, si elles reçoivent la question de quelqu'un d'autre, eh bien, la réponse sera non. Donc voilà, en termes de responsabilité, est-ce que ça changera nos responsabilités? Pour nous, il semblerait que non, mais il faut se poser cette question justement. Merci beaucoup. Question de Greg Mounier. Conformément aux relations avec EDPS, quel est le rôle de l'ICANN en termes de coordinateur du système? Alors, vous devriez poser votre question dans le chat. Je pense que ce serait plus facile. Comme ça, je pourrais voir votre commentaire, Alan. Mais quoi qu'il en soit, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. La probabilité, par rapport à l'interprétation de la loi, à mon avis, est basse. Mais pour que je puisse poser cette question, en fait, l'objectif de la loi, c'est d'avoir des obligations pour les contrôleurs de données individuelles. Question suivante de Ilabrou. Est-ce que l'ICANN travaille un certificat avec un email contact, certification de notification, et quel serait l'exemple de ce qui serait considéré pour comme motif suffisant lorsqu'on ne fournit pas d'informations? Je ne peux pas vous donner une réponse totale à ceci. Mais je mets les choses un petit peu en perspective. Nous faisons les choses une à la fois, en fait. Donc, du point de vue logique, la première chose, c'est que nous sommes tous d'accord pour dire maintenant que les parties contractantes ont des responsabilités conformément à la loi en ce qui concerne les données WHOIS. Et pour avoir un modèle d'accès unifié, nous devons donc baisser les obligations, les risques juridiques pour les parties contractantes. Ça, c'est la question sous-jacente et qui permet de rendre possible tout modèle d'accès unifié. Si nous dépassons cet obstacle, nous avons encore d'autres questions, nombreuses, qui pourront ou non faire partie de la solution pour continuer notre travail. Donc, nous essayons de le faire dans le cadre d'une démarche qui nous permet de découvrir tout ceci. Alors, premièrement, il faut décider si oui ou non c'est conforme à la loi, parce que la solution doit être mise en œuvre si elle est conforme à la loi. Deuxièmement, ça ne change rien. Et troisièmement, oui, ça marche bien, la démarche fonctionne, mais il y a d'autres questions dont il faut s'occuper. Et donc, on n'a pas de réponse. Donc, peut-être que dans très peu de temps, on reviendra vers la communauté et on dira, écoutez, ce modèle ne va pas. Et donc, j'espère que le PDP prêtera attention à ceci. Parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, cela veut dire que ma responsabilité repose sur la communauté. Donc, certaines des questions sont un petit peu prématurées si on se concentre sur le vrai problème, les possibilités juridiques d'avoir un accès unifié. Merci.
La question suivante est de M. Alles. Est-ce que l'autorisation de l'accès à l'UDIS et à RDAP sera contrôlée par l'ICANN? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de plaintes qui vont arriver à l'ICANN si l'ICANN contrôle tout cela? Comment est-ce que l'ICANN va gérer ces plaintes, qui pourraient être plus nombreuses? Oui, il y aura nos micros, oui, tout à fait. ICANN pourrait être l'entité juridique qui serait une cible de beaucoup de plaintes, en effet, je suis d'accord. Et n'oubliez pas que le terme corporation, corporation en anglais, nous sommes une entité à but non lucratif sise en Californie. Donc c'est un petit peu différent. Et nous avons une mission, nous avons des textes statutaires, et nous avons des politiques provenant de la communauté. Si la communauté pense que l'utilisation des données WHOIS sera la ICANN qui dira cela, eh bien, nous devrons en effet répondre aux différents textes juridiques. Donc, les le problème qui se pose pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'il n'y a pas une réponse très claire à qui a l'autorité juridique d'avoir accès aux données. N'oubliez pas que nous avons très bien réussi à avoir plus de clarté juridique sur nos différents modèles, et on essaie de pousser donc ce modèle unifié. Oui, pour revenir un petit peu sur la responsabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, l'utilisation de RDAP notamment, c'est essentiellement nous qui prenons la responsabilité de fournir la coordination du WIS. Et cela ferait donc partie de l'ICANN. Le WIS fait partie de l'ICANN depuis sa création. Et donc, nous cherchons toujours, depuis un an, à avoir des modèles et des nouveaux modèles qui feraient en sorte que le WHOIS resterait pratiquement inchangé tout en étant en conformité avec le RGPD. Donc, on essaie de changer un petit peu les conversations que nous avons. On ne travaillerait pas seulement avec les bureaux d'enregistrement et les registres, mais cela nous forcerait un petit peu, comme dans les spécifications temporaires, à être responsable de l'accès aux données du WHOIS. Donc comment pouvons-nous être cohérents par rapport à l'intérêt public de l'ICANN, par rapport à nos responsabilités juridiques? Nous ne travaillons pas au niveau commercial, mais il faut que l'ICANN ait un rôle d'intérêt public qu'il a déjà, avec le RDAP, avec tout type de WHOIS, de collecte de données. Donc, et il y a une question d'interprétation du RGPD qui se pose. Différents modèles d'accès aux données. Et c'est à ces questions auxquelles on doit répondre. Nous n'avons pas d'autres questions. Très bien, il y aura un au micro. Eh bien, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je serai très heureux de poursuivre le débat avec vous à Barcelone. Et nous aurons plus d'informations d'ici Barcelone. Et j'aimerais féliciter donc le PDP pour son travail si important, un travail collectif, multipartite. Donc si vous avez plus de questions, envoyez-les à ICANN.org et aidez-nous, s'il vous plaît, à continuer à commenter les commentaires publics. Il y en a qui sont ouverts encore. Et c'est extrêmement important. Si vous avez des idées, si vous avez des idées au niveau juridique, si vous avez des conseils du juridique à nous apporter, eh bien n'hésitez pas à nous contacter et à le faire savoir. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre participation. Ceci conclut notre webinaire. Merci.